Nakata respecta les instructions du chauffeur et ne quitta pas son banc, même pas pour aller aux toilettes. Cela ne lui posait aucun problème de rester longtemps immobile au même endroit. C'était une de ses spécialités. L'endroit où il était assis donnait sur la mer. Cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Quand il était petit, il était allé plusieurs fois à la plage avec sa famille. Il avait mis un maillot de bain, avait joué sur le rivage en faisant des éclaboussures et ramassait des coquillages à marée basse. Mais ses souvenirs étaient plutôt flous, comme si cela avait eu lieu dans une autre vie. Et il ne se rappelait pas avoir vu la mer depuis cette époque. Après l'étrange accident qui avait eu lieu dans les collines de la préfecture de Yamanashi, Nakata était retourné à l'école à Tokyo. Complètement rétabli physiquement, sa mémoire, en revanche, avait été complètement balayée et il ne put jamais réapprendre à lire ni à écrire. N'ayant pas accès au manuel scolaire, il ne pouvait pas passer les examens. Il avait oublié la totalité des connaissances acquises jusqu'alors et avait complètement perdu sa capacité d'abstraction. Pourtant, on le laissa continuer sa scolarité jusqu'au bout. Il ne pouvait pas suivre les explications des professeurs, aussi restait-il tranquillement assis dans un coin de la classe. Quand un professeur lui demandait de faire quelque chose, il suivait ses instructions au pied de la lettre. Il ne causait d'ennui à personne, et les professeurs avaient tendance à oublier sa présence. Il était un invité dans la classe, jamais un fardeau. Personne ne se rappelait plus l'excellence de ses résultats jusqu'à son accident. Et toutes les activités scolaires se déroulèrent désormais sans sa participation. Mais Nakata ne s'en faisait pas pour ça. S'il n'avait pas d'amis, personne ne l'embêtait non plus. Et du moment qu'on ne s'occupait pas de lui, il pouvait rester dans son monde intérieur. Il adorait s'occuper des petits animaux qu'on élevait à l'école, des lapins et une chèvre, et aussi des parterres de fleurs dans la cour. Il aimait également faire le ménage dans les salles de classe. Il s'absorbait dans ses activités, toujours souriant, sans jamais se lasser. Il n'y avait pas qu'à l'école que sa présence passait désormais inaperçue. Quand ils eurent compris que leur fils ne réapprendrait jamais à lire et ne pourrait pas suivre les cours correctement, les parents de Nakata, obnubilés par l'éducation de leurs enfants, se mirent à l'ignorer et concentrèrent toute leur attention sur leur fils cadet. Nakata était incapable d'entrer au collège. Aussi fut-il envoyé, une fois l'école primaire terminée, chez ses grands-parents maternels dans la préfecture de Nagano. On l'inscrivait dans une école d'agriculture. Comme il ne savait pas lire, il avait du mal avec la partie théorique de ses études, mais aimait beaucoup travailler au champ. Il aurait peut-être choisi de devenir fermier si ses camarades de classe ne l'avaient pas autant tourmenté. À la moindre occasion, il le battait comme plâtre et le blessèrent si atrocement, allant jusqu'à lui écraser un lobe d'oreille, que ses grands-parents décidèrent de le retirer de l'école. Ils le gardèrent à la maison et le firent participer aux tâches ménagères. Nakata était un enfant calme et obéissant, et ses grands-parents le choyèrent. C'est vers cette époque qu'il se mit à comprendre le langage des chats. Ses grands-parents en élevaient plusieurs, et Nakata devint très ami avec eux. Au début, il ne pouvait échanger que quelques mots avec eux, mais il développa patiemment ses capacités, comme s'il apprenait une langue étrangère, et parvint bientôt à tenir d'assez longues conversations. Dès qu'il avait du temps libre, il s'installait sur la véranda pour parler avec les chats. Ils lui enseignèrent beaucoup sur la nature et la vie. En fait, c'est d'eux qu'il apprit comment marchait le monde. À 15 ans, il commença à travailler comme apprenti dans une fabrique de meubles du voisinage. C'était en fait un petit atelier qui fabriquait à la main des meubles artisanaux, chaises, tables, commodes, qui étaient ensuite envoyés à Tokyo. Nakata adorait travailler le bois. Son patron l'appréciait beaucoup parce qu'il était adroit de ses mains, attentif aux détails, parlait peu et ne se plaignait jamais. Lire un plan ou faire un devis n'était pas son fort, mais à part ces tâches-là, il réalisait habilement tout ce qu'on lui confiait. Une fois qu'il avait compris comment fabriquer un modèle, il était capable de le reproduire parfaitement autant de fois qu'on le lui demandait. Au bout de 2 ans d'apprentissage, son patron l'engagea à temps plein. Nakata travailla dans cette fabrique de meubles jusqu'à ses 50 ans. sans jamais tomber malade ni avoir le moindre accident. Il ne buvait pas, ne fumait pas, ne se couchait pas tard, ne faisait pas d'excès de nourriture. Il ne regardait pas la télé et n'allumait la radio que pour l'émission de gymnastique du matin. Il se contentait de confectionner des meubles jour après jour sans se lasser. Ses grands-parents moururent, ses parents aussi. Tous les gens qui entouraient Nakata l'aimaient bien, même s'ils n'avaient pas d'amis proches. Personne ne pouvait rien à ça, car la plupart des gens qui essayaient d'engager la conversation avec lui avaient épuisé tous les sujets possibles au bout de 10 minutes. Cependant, cette vie ne rendait pas Nakata malheureux. Il ne se sentait pas particulièrement seul. Il n'éprouvait jamais de désir sexuel, ni même simplement l'envie d'avoir quelqu'un près de lui. Nakata savait bien qu'il était différent. Il avait remarqué, même si personne d'autre ne s'en était rendu compte, que son ombre sur le sol était plus légère et plus pâle que celle des autres. Les seuls êtres qui le comprenaient vraiment étaient les chats. Il passait ses journées de congé assis sur un banc à bavarder avec eux. Avec les chats, étrangement, il n'était jamais à court de sujets de conversation. Nakata avait 52 ans quand le patron de la fabrique de meubles mourut. L'entreprise ferma aussitôt après. Ce genre de mobilier traditionnel, lourd, aux teintes sombres, ne se vendait plus aussi bien que par le passé. Les artisans vieillissaient et les jeunes prêts à prendre la relève manquaient. La fabrique elle-même, qui au début était située au milieu des champs, était maintenant entourée de maisons, et les voisins se plaignaient des bruits de scie et de la fumée qui s'élevait quand on brûlait les copeaux de bois. Le fils du patron dirigeait un cabinet de comptabilité en ville et n'avait bien évidemment aucune intention de prendre la suite de son père. À la mort de ce dernier, il céda donc la fabrique à un agent immobilier. Ce dernier la fit démolir et vendit le terrain à un promoteur qui y éleva un immeuble de 5 étages. Tous les appartements furent vendus dès le premier jour. C'est ainsi que Nakata perdit son travail. La fabrique avait laissé des crédits impayés, si bien qu'il n'obtint qu'une maigre retraite. Il ne retrouva pas de travail. Comment un homme ne sachant ni lire ni écrire, incapable de rien faire d'autre que fabriquer des meubles artisanaux, aurait-il pu se recycler à 50 ans passés? Nakata avait travaillé sans relâche pendant 37 années de sa vie, sans prendre un seul congé, si bien qu'il avait accumulé un petit pécule. Il dépensait très peu et aurait pu finir confortablement ses jours en vivant de ses économies. Étant illettré, il s'était fait aider par un de ses cousins qui travaillait à la mairie pour ouvrir un compte d'épargne à la poste. Le dit cousin, un brave homme qui manquait un peu de jugeote, se laissa convaincre par un courtier en immobilier véreux d'investir dans un projet d'immeuble de location, dans une station de sport d'hiver, et se retrouva criblé de dettes. À peu près à la période où Nakata perdit son travail, le cousin disparut avec toute sa famille pour échapper à ses créanciers. Apparemment, il avait après lui un groupe mafieux lié à la finance immobilière. Personne ne savait où il était parti. On ignorait même s'il était encore en vie. Nakata se fit accompagner à la poste par une de ses connaissances, mais quand il vérifia le montant de ses économies, il découvrit qu'il ne lui restait plus que quelques dizaines de milliers de yens. Même l'argent de sa retraite, qui venait d'être viré sur son compte, s'était envolé. Nakata n'avait vraiment pas eu de chance, c'est le moins qu'on puisse dire. Il se retrouvait sans le sou juste au moment où il perdait son emploi. Tous ses parents compatirent à son malheur, mais eux aussi avaient été victimes des indélicatesses du fameux cousin. Ils lui avaient tous prêté de l'argent ou servi de caution pour des emprunts. Il ne leur restait pas assez pour venir en aide à Nakata. Finalement, ce fut l'aîné de ses deux frères qui le fit venir à Tokyo et décida de le prendre provisoirement en charge. Il avait hérité de ses parents un petit immeuble à Tokyo dans l'arrondissement de Nakano, divisé en studios, qu'il louait à des employés de passage. Il mit un de ses studios à la disposition de Nakata. Il gérait aussi la petite somme d'argent que les parents avaient laissée à Nakata et fit les démarches nécessaires pour que son frère ait droit à la pension pour handicapés de la préfecture de Tokyo. C'était à peu près tout ce qu'il pouvait faire pour lui. Nakata ne savait ni lire, ni écrire, mais il savait se débrouiller seul, du moment que son loyer était payé et qu'il avait un peu d'argent pour régler ses maigres dépenses. Ses deux frères avaient très peu de contact avec lui. Ils le virent quelquefois lors de son installation à Tokyo, et ce fut tout. Cela faisait 30 ans qu'ils ne vivaient plus ensemble, et leurs existences étaient trop différentes. Aucun des frères de Nakata n'éprouvait d'affection particulière pour lui, et, par ailleurs, ils étaient bien trop occupés par leur carrière pour s'occuper d'un frère handicapé. Cependant, Nakata n'en voulut aucunement à ses frères de le traiter si froidement. Il était habitué à la solitude et se sentait gêné quand les gens s'efforçaient d'être gentils avec lui. Il n'était pas non plus particulièrement en colère contre son cousin qui lui avait volé ses économies de toute une vie. Bien sûr, pour lui, c'était ennuyeux, mais il n'était pas spécialement déçu par l'attitude de son cousin. Il ne savait pas ce qu'était une station de sport d'hiver, ni ce que signifiait le mot « investissement », pas plus ce qu'était un emprunt. Il vivait dans son monde à lui, un monde au vocabulaire limité. Nakata pouvait se faire une idée de la valeur de l'argent jusqu'à 5000 yens. Au-delà, il ne faisait pas la différence entre 10 000, 100 000 ou 1 million de yens. C'était juste beaucoup d'argent. Il avait eu des économies, mais n'avait jamais réellement vu de ses yeux de telles sommes. Il avait seulement entendu les chiffres. On lui disait « Votre solde se monte à tant ». Or, cela restait trop abstrait pour qu'il pût imaginer ce que cela représentait. Il avait beau savoir que ses économies s'étaient évaporées d'un seul coup, il n'éprouvait aucun sentiment de perte. Il s'installa donc dans le studio prêté par son frère, toucha sa pension tous les mois, reçut une carte de bus, alla parler avec les chats dans les parcs du quartier et mena une petite vie bien tranquille. Ce quartier de Nakano devint son nouvel univers. Comme un chien ou un chat, Nakata avait son territoire, entre les limites duquel il évoluait librement et en dehors desquelles il ne s'aventurait jamais. Il y coulait des jours paisibles, sans frustration ni colère. Il ne ressentait pas la solitude, ne s'inquiétait pas pour l'avenir, trouvait sa vie parfaitement confortable. Il savourait paresseusement, minutieusement, chaque jour qui passait. Telle fut sa vie pendant plus de 10 ans. Jusqu'au jour où Johnny Walken était apparu. Cela faisait longtemps que Nakata n'avait pas vu la mer. Il n'y en avait pas dans l'arrondissement de Nakano. Il se rendit compte pour la première fois que cela faisait vraiment très longtemps qu'il avait perdu le souvenir de ce qu'était la mer. Il n'y pensait même jamais. Il hocha la tête plusieurs fois, comme pour se confirmer à lui-même ce qu'il venait de se dire. Il ôta son bonnet, frotta du plat de la main sa chevelure poivre et sel, remit son couvre-chef et contempla à nouveau la mer. Tout ce qu'il en savait, c'est qu'elle était très vaste, très salée et que des poissons vivaient dedans. Assis sur son banc, il respira le vent marin, regarda les mouettes planer dans le ciel, admira les bateaux amarrés dans le port. Il ne se lassait pas de ce spectacle. De temps en temps, une mouette toute blanche volait dans la direction du parc et venait se poser sur la pelouse verte de ce début d'été. Nakata trouvait cette combinaison de couleurs magnifique. Il s'avança à la rencontre d'une des mouettes et essaya d'engager la conversation. Mais l'oiseau se contenta de lui jeter un regard glacé. Il n'y avait pas le moindre chat à l'horizon. Les seuls animaux visibles dans ce parc étaient des mouettes et des moineaux. Au moment où Nakata sortait sa thermos de son sac pour boire un peu de thé, de grosses gouttes de pluie se mirent à tomber. Il ouvrit le parapluie qu'il avait précieusement gardé près de lui. Lorsque Oshino revint le chercher, un peu avant midi, il avait cessé de pleuvoir. Nakata était assis sur son banc, le parapluie replié, exactement tel qu'Oshino l'avait quitté quelques heures plus tôt. Et il regardait la mer. Le jeune routier avait dû garer son camion quelque part, car il arriva en taxi. « Hé ! Excuse-moi, j'ai été retardé. » Il avait un sac marin en plastique sur l'épaule. « J'aurais dû terminer avant, mais il y a eu un tas de complications. Dans les entrepôts des grands magasins, il y a toujours un type pour venir te casser les pieds. » « Cela ne fait rien. » Nakata ne s'est pas ennuyé. Il est resté là tout le temps à regarder la mer. Eh ben, fit Oshino en jetant un coup d'œil au panorama que Nakata contemplait. Il n'y avait rien d'autre à voir qu'une jetée délabrée et une mer sur laquelle luisaient des flaques de pétrole. Voilà longtemps que Nakata n'avait pas vu la mer. Ah bon? La dernière fois, j'étais à l'école primaire. Je suis allé sur une plage qui s'appelait Enoshima. Ça doit faire un sacré bout de temps. À cette époque, le Japon était occupé par l'Amérique et il y avait plein de soldats américains sur la plage d'Enoshima. C'est pas vrai? Si. Arrête ton char. Pourquoi l'Amérique aurait-elle occupé le Japon? C'est trop compliqué pour Nakata. Mais l'Amérique avait des avions qui s'appelaient des B-29 et qui lâchaient des tas de bombes sur Tokyo. Et Nakata est allé dans la préfecture de Yamanashi. C'est là qu'il est tombé malade. Eh ben, laisse tomber, va. Les histoires trop longues, ça me fatigue. Allons-y. Le déchargement m'a pris plus longtemps que prévu et si on traîne, il va faire nuit. Où allons-nous? Dans le Shikoku, pardi. On va traverser le pont. C'est bien ce que tu voulais, non?
Oui, mais votre travail...
T'occupes. Mon boulot, je trouverai toujours un moyen de le faire. J'ai trop travaillé ces derniers temps. Je pensais justement prendre un peu de vacances. J'ai encore jamais mis les pieds dans le Shikoku. J'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble. Et pour toi, papy, c'est plus commode d'être avec moi, non? Tu ne sais pas lire, tu ne peux pas acheter tes billets tout seul, pas vrai? Peut-être que ça te dérange que je vienne avec toi.
Pas du tout. Cela ne dérange pas du tout, Nakata.
Alors, c'est décidé. On part ensemble dans le Shikoku. J'ai pris les horaires de quart.